Couleur FM, espace public, Thierry Borde.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle émission particulièrement politique. Après avoir reçu Vincent Chriqui lors de notre dernière édition, nous recevons aujourd'hui Monsieur André Borne, donc leader de l'opposition socialiste au conseil municipal de Bourgoin-Jallieu, et Madame Frédérique Pénavert, qui elle aussi est l'une des leaders de l'opposition de gauche berjalienne, mais pour le Parti communiste français. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être venu ici pour parler de politique à Bourgoin-Jallieu, pour nous expliquer comment ça se passe au conseil municipal, comment va la démocratie berjalienne aujourd'hui. Alors vous avez certainement pu entendre sur notre antenne notre entretien de la dernière fois avec monsieur le maire Vincent Chriqui, qui dressait un bilan de la un bilan un petit peu intermédiaire de sa politique municipale. J'ai envie pour commencer de vous demander de manière générale comment se situe votre opposition, votre position en réaction à cette politique ou non, aujourd'hui, avec effectivement un bilan très, très marqué sur un dynamisme urbanistique, on va dire.
Bah c'est Monsieur vrai qu'au niveau de cette nouvelle opposition, on n'avait jamais imaginé d'être constamment sur le fil du rasoir, parce que c'est vrai que M. Vincent Chriqui et sa nouvelle majorité sont rentrés vraiment dans les chaussures urbanistiques de la ville, de ce qui était en train de pousser. Et c'est vrai que de voir comment il s'est approprié tout de suite les aménagements qui sont sortis de terre et qui étaient déjà presque sortis de terre, comme le nouveau groupe scolaire Simone Veil, comme la place de la mairie, comme les nouveaux travaux de la salle polyvalente pour le théâtre, etc. Jamais une seule fois il a essayé de dire qu'il avait hérité quand même de projets qui étaient bien en place, que du coup il a amené bien sûr la suite en amenant sa patte, on va dire, mais sans reconnaître éventuellement tout le travail qui avait déjà été préparé en termes à la fois budgétaires et en termes aussi à la fois de développement urbain pour le dynamisme de la ville qui était déjà en route. Donc ça a été le premier, la première surprise. La deuxième surprise, c'est que c'est vrai qu'il a pris des décisions tout de suite marquantes sur des décisions plus, on va dire, dans le contenu social. Décider tout de suite de fermer le centre médico-sportif, décider tout de suite de baisser les subventions à pratiquement une trentaine d'associations, même de carrément baisser pratiquement 66% de subventions sur 45 autres associations. Enfin, il a pris des mesures et tout ça, il les a justifiées par le fait de cette fameuse dotation de l'État qui baissait et qui le contraignait à faire ses choix politiques parce qu'il ne voulait pas augmenter les impôts. Alors, en apparence, c'était assez vertueux, mais en réalité, soit il a fermé carrément des services publics, soit il les a rendus payants. Et donc, du coup, c'est une façon de payer l'impôt autrement, de manière indirecte. Donc, du coup, on est un peu parti dans cet état d'esprit, et depuis 3 ans, on est sans arrêt sous cette pression.
Ah oui, Madame Pénavert.
Moi, je dirais que le bilan à la ville de Bourgoin-Jallieu, par rapport aux populations, parce que ce qui est intéressant quand on est élu, c'est de rendre service aux populations. Donc moi, c'est ce que j'ai reproché à l'équipe de la majorité, c'est que leur bilan, c'est un bilan qui va contre les berjaliens. Dans le sens où toute la campagne de la majorité de Vincent Chriqui a été de dire on va baisser les impôts, etc., etc. C'est un peu son leitmotiv. Et en fait, toute l'action qu'il a mise en place avec son équipe consiste à réduire et à rendre la vie plus difficile des berjaliens. Donc André Borne citait le paiement des activités périscolaires, mais il y a eu aussi l'augmentation de la cantine, la baisse des subventions aux associations. Enfin, on a toute une liste comme ça de baisses de subventions ou de suppression complète des subventions. La maison des syndicats, on en parlera peut-être dans la discussion, mais c'est un exemple flagrant quand même qui rend beaucoup de services à la population. Donc la question moi, que je poserai à Vincent Chriqui, c'est pourquoi avoir pris ses responsabilités si on est dans l'impuissance de mettre en place des actions publiques et de rendre service aux berjaliens? À quoi sert un élu quand il ne rend pas service à ses concitoyens?
Il est filloniste, c'est une politique de rigueur.
Oui, c'est une politique, c'est ce que je lui ai dit, d'austérité, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place l'austérité à Bourgoin-Jallieu. La baisse des dotations de l'État, le Parti communiste les dénonce suffisamment. Là-dessus, c'est vrai, mais lui, il ne les remet jamais en cause. D'ailleurs, si son mentor Fillon arrivait aux affaires, je pense que les baisses des dotations de l'État elles seront encore plus importantes que ce qu'elles sont actuellement. Et surtout, il ne remet jamais en cause cette politique-là.
C'est vrai que les baisses des dotations de l'État elles sont quand même liées à un contexte national. Le nouveau gouvernement voulait rentrer dans les critères de essayer de baisser de 5,4% le déficit public de la France pour le ramener autour de 3-3,5%. C'est ce que d'ailleurs on va arriver à faire à la fin du mandat. Et du coup, c'est vrai que les 11 milliards d'économies, 3 milliards pesaient sur les collectivités territoriales. Et du coup, il y avait des efforts à faire. Mais quand M. Chriqui dit le chiffre de 2 millions d'euros, vous vous rendez compte, 2 millions d'euros d'en moins sur le budget, quand vous dites ça à un citoyen lambda, il dit purée, c'est vrai, c'est quelque chose de très important. Sauf que les 2 millions d'efforts sont faits sur 3 budgets de recettes qui sont de 35 millions. C'est-à-dire que c'est 2 millions sur 105 millions d'euros de recettes. Et ça ne représente que 2,5% par an cumulé. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui était impossible à faire. Et dans les choix budgétaires qu'il a fait tout de suite, d'ailleurs, il aurait pu, s'il était resté dans cette logique, ne pas mettre en route le Festival des Belles Journées, qui coûte grosso modo 250 000 euros de plus de dépenses qui n'étaient pas prévues.
Oui, c'est ça, vous êtes d'accord sur les économies, voilà. mais pas sur le choix.
Il a aussi décidé, par exemple, par rapport à la piétonne, de mettre tout le pavage, c'est-à-dire qu'il y avait un aménagement de la piétonne qui était fait pour que cet aménagement piétonne ne coûte que tant et pas 800 000 euros de plus, comme il l'a fait, etc., etc. Donc, du coup, il a fait quelques choix politiques de dépenses qui, du coup, l'a contraint pour rester dans l'étiage de ce qu'il disait de ne pas augmenter les impôts locaux pour que, du coup, il puisse faire ces politiques-là. Voilà. Mais c'est le berjalien, c'est le citoyen qui, du coup, d'une certaine manière, paye les impôts et paye aussi le service public qu'il était gratuit avant. Voilà.
Quels services publics sont payants, par exemple ?
Les TAPS, par exemple, au niveau des temps périscolaires. Nous, si on avait été élus, ils auraient été, entre guillemets, gratuits. Pas gratuits, parce que c'est bien les impôts locaux qui payent. Mais le berjalien qui bénéficie des TAPS, c'est un berjalien qui paye ses impôts locaux. Et en plus, en général, c'est des jeunes familles, puisque c'était lié aux enfants. Donc ça, le coût de ce paiement était déjà important. Le fait aussi pour les associations de se mettre à payer l'allocation de leur salle, alors qu'avant, elle était gratuite. Du coup, l'association, pour un événement, est obligée maintenant de payer l'allocation sur 1, 2, 3 journées. Donc,
y compris pour les associations à but humanitaire. Excusez-moi de tout couper, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a même pas de différence dans ce traitement entre les associations qui pourraient être, par exemple, à but de développement personnel ou les associations qui ont un but humanitaire. Donc ça veut dire qu'il y a un gros effort au niveau associatif et des bénévoles pour récolter des fonds pour des causes quand même qui sont importantes. Et là-dessus, elles sont taxées par la ville de 300 euros pour une location, par exemple, de salle. Donc c'est pas acceptable.
Et même sur une politique comme le parking public était quelque chose d'important pour lui, en disant que la ville était asphyxiée parce qu'il n'y avait pas assez de places de parking ou parce que le parking était payant, et où on s'attendait éventuellement à une gratuité de certains parkings ou à certains moments dans la semaine, finalement, ces parkings ont même augmenté de 12 à 40% selon les secteurs pour faire rentrer des sous dans les caisses. Donc grosso modo, toute cette stratégie a fait que le fait de baisse des dotations d'État, qui était grosso modo de 700 000 euros par an, a été compensée par pratiquement plus de 1 million de recettes nouvelles payées par les usagers ou le contribuable berjalien, qui n'était pas forcément berjalien, parce que des fois, quand on paye le parking, on n'est pas berjalien, on peut être du territoire, qui fait que du coup, il a créé de nouvelles recettes sur le fait que ces politiques publiques sont devenues en fait des moyens de pouvoir faire rentrer un peu d'argent.
Alors on parlait des services publics payants, vous avez évoqué les TAP, qui ne s'appellent plus TAP, qui s'appellent Nouvelle Activité Périscolaire, normalement je crois, et qui sont effectivement devenus payants sur un principe du quotient familial. Vous dites que vous ne les auriez pas fait payants, mais alors là justement on a un petit peu une dichotomie, non, entre ce qui se passe au niveau de l'État dans son rapport avec les collectivités et ce que peuvent ou veulent faire les collectivités. L'État demande aux collectivités, aux municipalités de développer les nouvelles activités périscolaires, mais en même temps ne donne pas forcément suffisamment de fonds pour le faire à côté. Comme vous voulez.
Oui. Je pense que là, sur ce sujet, c'est vrai qu'on a eu un différent entre l'analyse d'André Borne et la mienne.
Je l'imagine.
Voilà. Donc autant au niveau local, on est en accord complet sur l'analyse qu'on a de ce qui est fait par la municipalité, autant au niveau national, effectivement, moi je trouve qu'il n'est pas acceptable de vivre de telles baisses de dotation de l'État, alors que les collectivités, comme vous venez de le dire, financent 70% de l'investissement public et dans le fonctionnement se voient déléguer de plus en plus de responsabilités. Donc le cas de l'école est intéressant parce qu'effectivement, on pourrait se dire que la partie temps périscolaire, même s'il y a des déclinaisons locales, il aurait fallu un cadrage national pour que, d'une part, ces activités soient assurées partout et qu'il n'y ait pas de différence entre les communes, puisque là, on arrive quand même à une école à deux vitesses, et, parce qu'il y a des communes qui ne peuvent pas mettre en place cet empirisme scolaire. Donc, effectivement, là, je pense qu'on a une divergence, parce qu'au niveau national, je pense que les orientations qui ont été prises ne sont pas celles qui avaient été promises dans le discours de campagne. Voilà. Donc, effectivement, je pense que sur le plan national, on n'est pas d'accord là-dessus. Sur le plan local, ce que moi, je reproche à la majorité, c'est ses choix. C'est-à-dire que dans une enveloppe contrainte, même si elle est contrainte, effectivement, il y a toujours des choix. Et que les choix qui sont faits par la municipalité, ce sont des choix qui vont à l'encontre des Bergaliens. Et que donc, il y a des... Bon, André Borne citait les belles journées. Là, on parlera certainement du projet de la piscine. Alors là, c'est... Mm-hmm. Voilà, le gaspillage financier qu'il y a sur cette opération.
On va reparler de la piscine.
Bah, pour en revenir Monsieur pour l'État, Norman. Parce que quand même, au niveau national, il y avait quand même un travail qui était fait en amont, sur lequel nous on était préparés donc à mettre en route ces TAPS, hein, donc du coup qui faisait partie quand même d'un élément important au niveau, on va dire, des forces de gauche, qui n'était pas la réalité de la nouvelle majorité qui arrivait. Donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de détricoter et de mettre en avant les mauvais effets, le non-financement de ces mesures. Quand même, malgré tout, il y a quand même...
C'est quand même une analyse partagée dans à peu près 36 000
oui,
communes en France.
Quand même, malgré tout, il y a quand même eu, quand même, malgré tout, une dotation qui a été donnée de 50 euros par enfant scolarisé qui fréquente ou qui ne fréquente pas d'ailleurs les TAPS, puisque du coup, sur une ville comme Bourgoin-Jallieu, ça représente une dotation de 130 000 euros. Donc les familles, aujourd'hui, sur Bourgoin-Jallieu, ne sont que 30% à participer à ces taux d'activité périscolaire, à ces temps d'activité périscolaire. Et c'est ça qui est, à mon avis, le plus dramatique, c'est que, alors que c'était quelque chose qui avait une vertu pour essayer de faire partager des activités en dehors du temps scolaire à tous, au plus grand nombre, du coup, ça a resélectionné par le prix du coût à payer par les familles, puisque elles sont plus que 30% à participer. Ça fait rentrer, entre guillemets, dans la caisse de la collectivité 90 000 euros de plus. Et c'est un paiement aussi d'un service public qui aurait dû, à mon avis, dans l'esprit, être gratuit. J'ai été, moi aussi, interpellé, déçu du fait de ne pas avoir un soutien plus important de l'État pour la mise en place de ces TAPS pour les collectivités locales, parce que c'est vrai qu'elles se mettaient en même temps avec des dotations qui diminuaient, ça c'est vrai. Et tous les maires de France, en fait, qu'ils soient de gauche ou de droite, le reconnaissent.
Et puis à gauche, ça aurait pu être vraiment un bel élan d'éducation populaire.
Voilà, ça aurait été un bel élan d'éducation populaire avec, on va dire, une semaine où on apprend les savoirs fondamentaux tout en ayant des temps d'éveil. Et c'est vrai que c'est parti, en fait, par quelque chose qui finalement... est devenu un peu, pas une peau de chagrin, mais qui est moins attractif et qui, malheureusement, tous les enfants qui auraient pu bénéficier de cet éveil, de ces accueils, se retrouvent un peu dehors, hein, dans la rue, hein, pendant ces temps périscolaires, hein, puisqu'il y en a qui, 70% qui ne les fréquentent pas dans la ville de Bourgoin-Jallieu. Et c'est ça, moi, qui m'interpelle, qui n'a pas l'air de trop interpeller, hein, d'ailleurs, la nouvelle majorité et le maire d'aujourd'hui.
Très bien. Alors, je vous propose de faire une première petite pause musicale et puis on va reprendre juste après.
Seems to me so easy. I'm just confused between my dreams and your reality. Wake up in the morning, just want to see your three faces looking at me. I am the same, I have not changed. I'm just growing up. I'm just thinking about you. You just changed my life for you. Want to hold some of our past, I passed so fast I couldn't see it, I couldn't catch it, but
just change my life for good. Now it's time for me to thank you and to see that I love you, baby.
Voilà, nous sommes bien sur Couleur FM, toujours en compagnie de Frédéric Pénavert, élu municipal à Bourgoin-Jallieu pour le Parti communiste français, et André Borne, lui aussi dans l'opposition bergalienne pour le Parti socialiste. Nous avons parlé d'une certaine forme de bilan municipal depuis que Vincent Chriqui a été élu maire. Hier, parce qu'on enregistre aujourd'hui mardi 22, hier c'était le lundi 21, il y avait une grande soirée où vous étiez tous les deux très partie prenante à propos de la gestion de l'eau dans la capitale. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu l'enjeu.
Hier, c'était une réunion qui était une table ronde avec des personnes d'univers très différents sur la problématique de l'eau et à l'initiative du collectif Eau Bien Public. Donc, il s'est créé ce collectif au printemps dernier pour débattre avec la population et aider, je dirais, la prise de décision des élus en ce qui concerne la gestion de l'eau sur la CAPI. Voilà, parce qu'actuellement, il y a plusieurs modes de gestion de l'eau sur la CAPI. Pour faire simple, il y a de grands affermages.
Hein,
voilà. Donc, la Suez, donc une entreprise privée sur Bourgoin-Jallieu, Saint-Savin et d'autres, quelques autres communes. Et puis, la Cebidao, qui est une société d'économie mixte, avec des fonds, la plupart des fonds publics, sur les communes de Villefontaine, Lidabo, Saint-Quentin-Falavier, Four.
L'ex-Ville Nouvelle.
Voilà, on va dire l'ex-Ville Nouvelle élargie. Et donc, voilà, la CAPI réfléchit, et c'est bon, contraint d'ailleurs cette réflexion dans le cadre de la loi NOTRe, à un mode de gestion qui soit le même sur toute la CAPI. Donc, ce collectif s'est créé. Et parce qu'il promeut bien évidemment la gestion publique de l'eau.
Considérant l'eau comme un bien commun.
Voilà, considérant l'eau comme un bien commun, comme un bien rare, comme un bien qu'il faut protéger. Et donc, on pense que c'est le service public qui est le plus à même de garantir à tous les usagers une eau potable, une eau qui tient compte de l'environnement, etc., etc.
Parce que c'est un bien public et qu'on devrait payer le coût réel et pas un coût marchand ou un coût capitalistique qui
voilà.
Pourrait...
Voilà, parce que la plupart des communes en France qui ont basculé d'une gestion privée à une gestion publique de l'eau, très souvent en régie d'ailleurs, se sont rendues compte que les habitants faisaient des économies assez substantielles. Oui.
Voilà, et ce qu'on a mis en exergue lors de ces réunions, c'est qu'il y a quand même bien une différence de prix actuellement au mètre cube. Sur la CAPI, c'est-à-dire que les usagers ne payent pas le même prix hein, sur toute la CAPI, et que ceux qui sont régis par la Cemidao, donc public, payent 85 centimes de moins le mètre cube, ce qui fait quand même sur une année entre 80 et 100 euros de différence. Et quand on voit les revenus des habitants de la CAPI, on peut se dire que c'est quand même important.
Alors c'est vrai que le débat par rapport à l'eau fermier actuel, on va dire privé et le fermier public, c'est essayer de bien mesurer si en dehors de l'eau qui coule au robinet, tout le réseau est, je veux dire, est aux normes, est à niveau, pour que du coup, si demain on n'a plus qu'un seul fermier, on ne soit pas surpris en fait de défaillance d'un réseau à l'autre. Pour que du coup, si on prend une décision par rapport à un seul fermier, on le prenne bien, en toute conscience éventuellement d'investissement à faire pour renforcer un réseau qui, sur une certaine partie, n'était pas assez à jour, pour que du coup, on n'ait pas le sentiment à la sortie de payer plus, parce que finalement, on avait minimisé le fait de ce réseau qui n'était pas si qualitatif qu'on le croyait. Voilà, ça c'est un petit peu, c'est pour ça qu'il y a ces débats, il y a ces craintes, il y a ces questions, et je pense que du coup les techniciens aussi amènent des éléments. Après il y aura un choix politique qui fait que même si imaginons qu'on décide politiquement de décider de prendre en fait l'opérateur public, et qu'il faudra éventuellement renforcer quelques niveaux de réseau parce qu'ils n'étaient pas à jour, qu'on sache que du coup, on le prendra en charge, et même si le prix de l'eau finalement sera moins différent par rapport au privé, sur le long terme, en tous les cas, on aura la maîtrise de notre destin. Voilà.
Il y a quelque chose d'important, hein, et que, je citerai Michel Rival, mon camarade, qui dit souvent « l'eau paye l'eau », c'est-à-dire qu'au niveau de l'eau, c'est les usagers qui payent complètement le service. Ouais. Et que dans une société publique, s'il y a, je dirais, des bénéfices en fin d'exercice, ces bénéfices sont réinvestis intégralement dans l'investissement et dans l'eau. Voilà, donc dans une entreprise privée, on sait très bien quand même qu'il y a une partie.
Il faut payer quelques dividendes.
Voilà, qu'il va falloir rémunérer les actionnaires. Donc voilà, c'est, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Non. Et aussi, on a beaucoup discuté hier à cette réunion de la place des usagers. Puisque ce sont les usagers qui financent complètement l'eau, il est quand même normal qu'il y ait une partie, enfin que les usagers aient une part de consultation. Voilà, donc dans les sociétés qui se. Dans le choix qui se mettra en place sur la CAPI, on ne sait pas voilà, si ça sera une société publique locale ou ça sera autre chose. Mais le collectif, en tout cas, qui a été créé, dont je fais partie, et je suis parmi celles qui l'ont mis en place, on est en train de réfléchir aussi à se constituer un comité d'usagers pour pouvoir suivre l'affaire.
Et vous avez confiance sur la bonne décision de la CAPI ?
Oui, enfin, c'est pas. Je pense que c'est pas une question de confiance. Là, je pense qu'on est à un moment donné où là, on débat, on échange, et moi, je pense que c'est intéressant, y compris pour les élus, d'avoir un regard extérieur, parce que ce collectif, il est appuyé sur une coordination qui s'appelle la coordination au bien commun, et qui a déjà une expérience. Dans le passage du privé à la régie ou du privé à la SPL. Hier, on avait des intervenants de Grenoble, donc ils sont passés, eux, de la régie à la SPL. Voilà, donc ils peuvent aussi s'appuyer, les élus, sur cette expérience-là.
Mais personne à la CAPI ne dit qu'il faut tout basculer vers le privé.
Alors on entend le voix quand même du maire de Bourgoin-Jallieu quand même défendre un peu les intérêts de la société privée, hein, même s'il met quand même beaucoup de bémols, parce que il voit bien que même dans son courant politique, et si on parle de Monsieur Fessaguet, quand même, il se retrouve autour de la table avec nous et avec Monsieur Micrival, qui sont pas du même bord, c'est le moins qu'on puisse dire, pour défendre en fait ce nouveau marché, ce service public haut. Donc je ne sais pas s'il arrivera à tenir ou s'il arrivera à fédérer éventuellement une opposition à cette décision, mais c'est lui qui met quand même un petit bémol à chaque fois qu'on aborde ce sujet en conseil public, hein, pour essayer d'amener quand même la partition privée, qu'il ne faut pas l'écarter de fait. Et personne ne dit qu'il faut l'écarter de fait pour l'instant, puisque notre fermier actuellement, il s'appelle Suez, il est encore en place. Et même si éventuellement il n'était pas celui qui aurait éventuellement après l'ensemble du marché, il faut quand même qu'il soit autour de la table et qu'on le respecte, parce que quand même c'est lui quand même qui aujourd'hui nous tient l'eau, la qualité de l'eau et les réseaux de l'eau sur la partie de Bourgoin-Jallieu.
Les décisions ne sont pas prises et il y aura un premier vote au conseil communautaire très certainement de décembre ou peut-être début janvier. Donc je pense que là, on est quand même sur une thématique qui peut être plus large que les oppositions politiques et politiciennes habituelles. Et que donc, on l'a bien vu à la réunion hier, même, puisqu'on était effectivement à la fois des Verts, des gens qui ont des sensibilités plutôt à droite, des communistes, et puis des citoyens non encartés, et puis les usagers. Donc toutes ces personnes-là ont débattu tout hier, vraiment dans le calme, avec une personne de l'entreprise Suez aussi qui est intervenue, qu'on a écoutée, on a eu un vrai débat. Et c'est intéressant pour la démocratie, je trouve, d'avoir comme ça des vrais débats et pas des débats politiciens où on se jette des anathèmes à la tête. Et je pense qu'on va continuer, parce que la décision, même s'il y a une orientation qui est prise au Conseil communautaire de décembre, ça ne va pas se faire dans les mois qui suivent, hein, puisqu'on a jusqu'en 2018 pour mettre ça en place. Et donc le collectif continuera à travailler avec les élus pour ce qui nous concerne, effectivement, au collectif, aller plutôt vers une gestion publique.
Voilà, ben c'est une belle chose. L'eau est un enjeu qui dépasse largement la situation du Nord-Isère. C'est un enjeu mondial. Et alors, puisqu'on parle d'eau, et ben, pour être un petit peu cavalier sur la transition, on va parler de piscine, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez envie de parler de piscine. Ça fait quand même pas mal de mois que la piscine intercommunale fait parler d'elle. Alors, la décision a été prise. Elle sera installée par la CAPI à Champaret. Mais vous avez milité, Monsieur Borne, depuis le début pour qu'elle soit à Champfleury.
On a été surpris de cette décision parce que c'est vrai que pendant la campagne électorale, la piscine n'était pas un enjeu entre la majorité qui est maintenant, enfin entre l'équipe d'opposition qui était là aujourd'hui et puis nous qui est devenue majoritaire, puis nous qui étions quand même en manche, puisque l'équipement CAPI était, tout le monde d'ailleurs le reconnaît, la piscine tournesol est obsolète, il faut construire une nouvelle piscine couverte. Et dans le cadre de l'aménagement du programme de renouvellement urbain de Champfleury, le fait de reconstruire un équipement public aux nouvelles normes d'aujourd'hui est un élément primordial pour la réussite en fait de ces investissements, parce que c'est le seul équipement au nord de la ville de Bourg-en-Jallieu qui est un équipement structurant de rayonnement intercommunal. C'est-à-dire que c'est le seul équipement où des gens de l'extérieur viennent à Champfleury pour aller se baigner entre septembre et juin, puisque c'est une piscine qui est couverte. Donc c'était très important de pouvoir installer cette piscine, et il avait été décidé par des études préalables par CAPI qu'elle s'installe à l'entrée du quartier sur un terrain qui appartient à la commune, un terrain, une friche des services techniques, donc où on a 2,7 hectares de friche et où la piscine allait occuper 1 hectare de ce terrain. Donc c'était quelque chose qui était dans la machine, et puis d'un coup on a découvert que finalement la piscine allait changer d'endroit. On a même parlé de rue. Hein, on a même au début entendu parler même d'écloses badinières, vous voyez, c'est pour vous dire comme quoi les choses quand même bougeaient. Et puis du coup on est revenu à la situation de dire quand même c'est sur Bourg-en-Jallieu, et le maire a voulu absolument positionner cette piscine sur le quartier de Champaré, en arguant l'argumentaire qu'elle était plus près des communes de l'Est de Capi, sachant que les communes de l'Est, les 6-7 communes de l'Est représente 14 000 habitants, alors que la Bourg-en-Jallieu plus, on va dire, toute la partie centrale avec Domarin, Saint-Savin, en passant par Mairie et Maubec, etc., c'est 45 000 habitants. Et la ville-centre Bourg-en-Jallieu accueille tous les jours plus de 25 000 personnes. Donc la piscine, le positionnement de la piscine couverte sur Bourg-en-Jallieu, à mon avis, s'imposait à tous. Le fait d'avoir fait ce changement nous a contraints donc à nous battre pour empêcher ça, et on espère que malgré la décision de Capi, les choses ne se feront pas, parce que le positionnement de la piscine sur Champaré est dans un terrain qui est en zone inondable, où il y a beaucoup de contraintes.
C'est bien pour une piscine.
Donc du coup, il y aura, bien sûr, tout est constructible, même en zone inondable, mais les coûts aussi, la billetterie donc, va augmenter, et en plus, les terrains ne nous appartiennent pas. Donc on a déjà pris une décision.
Pourquoi la billetterie ?
Parce que du coup, les coûts de structure pour rendre pérenne cet équipement auront des conséquences par rapport à l'aménagement. Il faudra qu'on surélève la piscine à 60 cm du niveau naturel, il faudra qu'on renforce les berges, il faudra que du coup l'accessibilité des voiries se fasse par au point du rivet, donc on va créer des voiries. On va dénaturer aussi un espace vert qui était le parc Mermoz d'entrée, qui deviendra un parking, donc on va probablement couper des beaux arbres centenaires, etc., etc. Donc du coup, on va essayer de construire quelque chose qui n'est pas quelque chose qui pouvait se faire avec l'envergure d'une piscine nautique qui accueille grosso modo 100 000 personnes par an. Donc du coup, avec beaucoup de contraintes qui seront liées à la fréquentation autour. Voilà. Alors c'est vrai que le maire essaye de nous faire glisser le fait qu'on est contre les habitants de Champaré pour en fait sauvegarder les intérêts de Champfleury. C'est pas vrai.
Pourquoi cette insistance pourquoi pas Champaré finalement?
Parce que dans l'aménagement du territoire et dans le PLU, on avait déjà bien fixé ces équipements structurants à tel ou tel endroit. Et Champaré a déjà beaucoup d'équipements structurants. Ils ont déjà la polyvalente, ils ont un centre commercial qui fonctionne, ils ont un hôtel-restaurant, le stade Pierre-Rajon, la piscine Rajon, etc. Mais la médiathèque, c'est un équipement de proximité. La médiathèque, elle est déjà à Champfleury, elle est dans un Algeco mal placé. Il va y avoir une belle médiathèque, mais qui sera un équipement qui sera de proximité, qui ne fera pas venir des gens de l'extérieur. Le seul équipement public structurant de rayonnement intercommunal qui fait venir des gens de l'extérieur, c'était la piscine. Et c'est pour ça que si on l'enlève, on va se retrouver après dans un quartier où en fait on va avoir des services peut-être de proximité liés au quartier, mais il n'y aura plus de gens qui viendront. Et qui viendront, qui repartiront. Et du coup, on risque de reghettoiser ce quartier, et qui, à terme, à mon avis, on le sait partout en France, dans toutes les politiques de renouvellement urbain en France, quand on a minimisé ou qu'on a supprimé les équipements publics d'un certain rayonnement qui dépassait le quartier est retombé dans ses travers. Et c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on va essayer de se battre pour que cette piscine reste bien sur le site initial sur lequel on avait prévu de l'installer.
On peut peut-être aussi soulever une contradiction au niveau CAPI, c'est que vous avez certainement vu des mesures, je dirais, austéritaires qui ont été prises au niveau de la CAPI au dernier conseil communautaire.
Une très forte rigueur, là aussi.
Voilà, une très forte rigueur. Et en même temps, dépenser de l'argent sur ce projet piscine, alors que, par exemple, les études avaient déjà été financées par la CAPI, et que là, il va falloir, comme disait André Borde, acheter les terrains. On a déjà passé une délibération.
C'est 216 000 euros. On a acheté 4500 m² à l'entreprise Pathéon.
Alors que les terrains sur l'entrée de Champfleury appartenaient à la ville et donc n'auraient pas de nécessité.
Quand vous dites on a acheté, c'est la commune de Bourgoin.
La ville de Bourgoin. Parce que la ville va acheter et va redonner à l'euro symbolique en plus à Capi ces terrains.
Donc on nous parle d'austérité à la ville de Bourgoin-Jallieu, à Capi, et puis là on dépense de l'argent.
Alors bah justement, Champfleury, vous parliez de la vie de ce quartier bergalien. Vous, vous êtes même battu ensemble avec le maire finalement autour du combat pour la poste.
Tout à oui. fait, battu. Nous avons, enfin, moi j'ai proposé...
On est arrivé à faire une motion ensemble.
Voilà, on a proposé, j'ai proposé une motion au conseil municipal, c'était en 2014, pour que le bureau de poste de Champfleury reste à Champfleury et qu'il ne soit pas transformé ni en ce qu'on appelle un APC, c'est-à-dire une agence postale communale, puisque là ça serait encore un transfert de charge sur la collectivité, donc on est d'accord là-dessus, ni en relais postal. Le relais postal, c'est un relais commerçant, c'est-à-dire qu'un commerçant assure un minimum de services, ce que j'appelle moi le low cost de la poste, c'est-à-dire c'est quand même très 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 limité hein, à
colis, timbres,
et très peu de mandats. Donc cette délibération, elle a été votée à l'unanimité du conseil municipal. Voilà. Et ensuite, je réagis un peu quand vous dites, on s'est battu. Nous, on s'est battu, oui, au collectif de défense de la Poste, on s'est battu, on a fait signer des pétitions, on a essayé de rencontrer la Poste, le collectif qui est un collectif départemental a contacté les médiateurs de la Poste, on a fait tout ce qu'on a pu pour que ce bureau reste à Champfleury, parce que quand même Champfleury, c'est 6 000 habitants. C'est-à-dire qu'un bureau de poste dans un quartier qui fait 6 000 habitants, ça se conçoit. Autant on peut se poser la question du service postal et de sa transformation quand on est en haute montagne ou dans un espace rural où c'est difficile d'organiser le service public. Et là, on essaye de mutualiser, de faire tout ce qu'on peut pour que ce service continue.
À la montagne, à la campagne, comme à Champfleury, le service postal, c'est aussi du lien social, non ?
Exactement. Mais c'est vrai qu'on pourrait concevoir... que c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas là, il y a quand même 6 000 habitants.
Et puis il y a aussi 2 000 personnes qui viennent travailler.
Voilà, et avoir un relais postal dans ces situations-là, c'est quand même aberrant. Voilà.
Et donc finalement, c'est la solution qui a tout de même été trouvée, donc la supérette et le relais postal dans la supérette. Oui.
Voilà, et c'est pour ça que je disais à M. le maire et à son premier adjoint qu'ils ont pratiqué un double discours, parce qu' ils ont voté à l'unanimité donc, cette motion que j'avais proposée. Donc ils se dédouanent complètement en disant « oui, on veut bien avoir un bureau de poste ». Et ensuite, ils n'ont absolument rien fait pour défendre ce bureau de poste. Et au contraire, ils ont négocié avec la poste une transformation en relais commerçant, alors qu'ils avaient voté contre au départ.
Et là, moi, où j'en veux un peu au maire, c'est qu'en même temps, la poste au centre-ville est dans un équipement qui est obsolète, c'est une friche. Il va falloir donc le bâtiment, d'ailleurs, est à vendre. Et le maire avait eu un moyen de pression pour dire à la poste, par rapport à la poste de centre-ville, si vous voulez qu'elle soit requalifiée, repositionnée dans un bâtiment tout neuf, parce que tout autour, de toute façon, c'est un espace public, la place Générale de Gaulle, toutes les rues qui sont autour, si on reconstruit, si on remodélise l'espace donc de l'agence postale du centre-ville, il pouvait faire un bras de fer en disant « bon, je vous accepte, j'accepte éventuellement que vous vendiez votre tènement, qu'il y ait une recomposition éventuellement spatiale de votre espace, mais en attendant, moi je veux que vous maintenez la poste et vous installiez dans le bureau qui avait été prévu dans le cadre du renouvellement urbain autour de la centre commerciale, autour de la place centrale, pour pouvoir faire un peu, tenant-tenant ». Et il a complètement oublié ce bras de fer. Et c'est lui qui signe, le maire, les permis de construire, les autorisations de travaux par rapport à l'agence. Donc il avait quelques moyens de pression quand même pour essayer au moins de faire retarder cette décision.
Vous auriez souhaité que le rapport de force aille plus loin.
Et du coup, le rapport de force s'est pas fait dans les coulisses. Et à mon avis, c'est parce qu'il y avait déjà un parti pris qui était fait.
Il y a le rapport de force et il y a aussi ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'avec la Poste, les maires ont leur mot à dire. Il y a un schéma d'accord entre la Poste, l'État et les maires pour l'installation des bureaux. Avec justement, normalement, dans ce rapport, une impossibilité de fermer les bureaux de poste dans ce qu'on appelle les zones sensibles. Et donc là, on est bien dans un quartier politique de la ville. Comme vous le disiez tout à l'heure, un bureau de poste, ça participe bien évidemment au lien social. Donc les conséquences, c'est pas que fermer un bureau de poste. On va voir après les conséquences que ça a sur un quartier, sur le lien entre les gens. Et après, c'est vrai que M. Chriqui, avec ses amis de droite, vont être les premiers à dire que ça se passe mal dans les quartiers, qu'il faut renforcer la sécurité, mettre des caméras partout, etc.
Que les services publics sont
sauf
bons,
que les caméras, si vous voulez, ça filme les choses et ça dit ce que la personne a fait, et encore si on a quelqu'un derrière, voilà, et quand ça marche. Et je pense que prévenir les problèmes, c'est bien mieux.
Tout à fait. Surtout dans un quartier qui est vraiment en reconstruction, en rénovation, et qui, à mon avis, aujourd'hui, est vraiment presque en aboutissement, mais on voit bien le thermomètre, on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, parce qu'il y avait encore 8 programmes immobiliers qui pouvaient se faire privés sur ce quartier-là, et aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a plus aucun promoteur qui vient dire qu'il est intéressé par les terrains. Je ne sais même pas si on donnait le terrain gratuit, si on aurait un promoteur qui viendrait, parce qu'il entend le fait des fermetures des services publics, des choses qui font que du coup, ça crée une mixité fonctionnelle, parce qu'il y a la mixité sociale, mais il y a aussi la mixité fonctionnelle qui est importante, c'est-à-dire de dire je vais à un endroit parce qu'il y a tel ou tel service, et du coup, de ce service-là fait que du coup, je viens et que du coup, ça crée une mixité peut-être sociale, mais la mixité fonctionnelle, et c'est très important aussi par rapport à des grands quartiers comme Champfleury. Champfleury, vous savez, si c'était une ville, ça serait la 5e ville de Capi. Hein, c'est-à-dire que si on enlève sur 22 000 habitants, même si en enlevant les 6 000 habitants de Bourgoin-Jallieu, on serait toujours la ville la plus importante, mais les 6 000, après on serait la 4e ville de Capi. Donc c'est quand même une ville dans la ville. Et c'est très important de prendre conscience de ça, parce que si on met que 6 000 habitantes qui viennent dormir le soir et qui repartent le matin, on sait à terme que le désœuvrement fera que du coup il y aura une dégradation des espaces publics et que du coup après ça deviendra à terme aussi des zones de non-droit. Et ça, moi je ne le veux pas, parce que les 45 millions qu'on a investis pendant des années pour pouvoir changer cette donne, pour pouvoir changer cette donne pour Bourgoin-Jallieu et tout le territoire, je veux le sauvegarder.
Alors, il y aura néanmoins des espaces verts. C'est l'occasion de faire la transition un petit peu sur cette partie où vous avez parlé d'arbres tout à l'heure. Il y a donc la création d'un parc.
Tout à fait, un hectare.
À Champfleury, qui va aussi permettre peut-être d'embellir un petit peu ce quartier, d'attirer d'autres populations, comme vous le dites. Est-ce que pour vous, la gestion environnementale à Bourgoin est une bonne gestion à ce niveau-là pour attirer, pour mettre en valeur?
Bah, de toute façon, la politique environnementale et le patrimoine vert de notre ville, c'était quelque chose qui faisait partie de notre ADN aussi à nous. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Si je reviens au parc qui est en train de se créer à la place du Chopin, hein, sur ce terrain d'entrée du quartier, aujourd'hui ce parc donc va se construire, il va parler avec l'entrée du quartier, mais autour de ce parc, il devait y avoir 6 résidences privées qui aujourd'hui ne vont pas se faire. C'est-à-dire que du coup, on va avoir des friches de terrain où les mauvaises herbes vont pousser autour d'un parc qui va peut-être être bien propre, mais qui n'aura pas de sens si on n'y met pas les 80 logements qui devaient être composés par plusieurs petites résidences. Il y a actuellement une résidence qui est en train de se faire, et heureusement qu'on l'a fait avant de s'en aller. C'est une résidence construite pour des salariés cadre de EDF, hein, il y a 32 logements qui sont en train de se construire, donc c'est des logements de fonction par rapport à des cadres de EDF, donc qui vont venir s'installer là, donc des familles à certains niveaux sociaux qui vont aussi amener une mixité aussi sociale sur une partie de ce quartier-là, mais ce public-là aussi sera aussi demandeur de services publics et ça sera important pour eux aussi de les avoir. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a un peu des nuages sur tous ces services de proximité, même par rapport à ces populations-là, sur le court chemin autour des 500 mètres de la résidence.
Il y a la question aussi par rapport à la piscine construite à Champaret, de ce que vont devenir ces arbres centenaires qui sont sur le terrain actuel et qui sont, d'après ce que j'ai compris, plutôt voués à destruction. Donc c'est quand même ça très problématique par rapport à la question que vous nous posiez sur l'environnement.
On a fait une modification du PLU parce que dans le PLU initial, ce parc vert donc à l'entrée donc de l'ex-usine Mermoz bénéficiait de ce qu'on appelle un ERP, c'est-à-dire un élément naturel remarquable et paysager qui était donc protégé, qu'on a enlevé dans la modification justement pour permettre de faire comme on veut. Mais on a enlevé sur le papier donc cette règle qui protégeait tout cet espace et ces arbres. Aujourd'hui, ces arbres sont là, ces espaces sont là. Tous les arbres ne sont pas de bonne qualité, mais quand on y va, quand même, il y a quand même quelque chose de très important qu'aurait pu d'ailleurs devenir un espace public, parc, pour les habitants du quartier, au lieu de devenir demain un grand parking de 150 voitures qui viendront peut-être dans une piscine couverte à côté. Donc c'est quelque chose, j'espère qu'on ne verra jamais, donc on va se battre, puisque dans le calendrier, la petite chance qu'on a, c'est que dans le calendrier qui est mis en place, la première pierre est quand même plus ou moins prévue juste avant la fin des élections, donc avant la fin du mandat de 2020, donc pour une ouverture en 2022. Donc ça sera un enjeu certain du prochain mandat, à ce que la nouvelle piscine couverte de Capis soit repositionnée sur l'endroit initial à Champfleury et qu'il ne se fasse pas à Champaret. Et puis ben, l'équipe qui gagnera continuera le chemin avec, dans un sens ou dans un autre. Et ça sera un élément important.
Donc si je comprends bien, il faut espérer que l'équipe d'après puisse le faire en moins d'un mandat, sinon on ne verra jamais la piscine.
Tout sera prêt, parce que les cabinets d'études, de toute façon, ils vont d'abord réfléchir sur la boîte, c'est-à-dire la piscine en elle-même, et les murs et ce qui s'y passe dedans, et puis l'environnement qui va être là. Donc moi, le message que j'ai déjà passé politiquement et même indirectement aux techniciens, c'est de dire, vous n'allez pas travailler pour rien, puisque du coup, cette piscine de 10 millions d'euros, vous allez l'imaginer en termes de fonctionnement à l'intérieur, en termes de programmation intérieure. Ne faites pas des choses définitives liées à l'environnement qui est autour, parce que peut-être qu'on vous proposera notre terrain en 2020.
L'avenir se prépare maintenant.
Exactement.
Voilà, toujours sur Couleur FM avec André Born et Frédéric Pélaver, représentant de l'opposition de gauche au conseil municipal de Bourgoin-Jallieu. Nous parlons depuis tout à l'heure de politique berjalienne et on va élargir un tout petit peu notre propos, puisqu'on a deux interlocuteurs très engagés, chacun dans leur parti politique, le Parti communiste pour Madame Pélaver, le Parti socialiste pour Monsieur Born. Donc j'ai envie de vous demander, dans ce grand enthousiasme démocratique d'aujourd'hui, avec des primaires de droite qui viennent de se passer, des primaires à gauche, enfin au Parti Socialiste, qui auront bientôt lieu au mois de janvier, avec un Parti Communiste qui a décidé de divorcer avec M. Mélenchon, vous allez nous expliquer pourquoi ça vous fait réagir tout à l'heure. Voilà, j'ai envie de vous demander un petit peu où vous vous situez. Madame Pélaver, on peut commencer par vous, parce que ma formulation vous a fait réagir.
Déjà, pour réagir à l'actualité, je dirais, comme mon journal préféré, L'Humanité, titrait ce matin, la droite a envoyé un message vraiment très à droite. C'est-à-dire qu'effectivement, les électeurs de droite qui ont porté M. Fillon, comme premier, dans leur vote, envoient un message ultra-libéral, quoi, parce que quand on voit le programme de M. Fillon, c'est quand même la réduction des fonctionnaires, c'est le retour aux 39 heures. Donc évidemment, nous allons nous battre, nous, au Parti communiste français, contre ces orientations ultralibérales qui vont, comme M. Fricky le fait dans sa commune, à l'encontre des Français. Parce que quand même, la réduction aussi massive des fonctionnaires, ça veut dire quand même concrètement moins de profs, moins d'infirmiers, moins de policiers, etc. etc.
Ça veut dire que chaque année, on ne remplacera pas les départs.
Voilà, je crois qu'il faut quand même être clair et dire les choses comme elles sont. Et puis c'est une politique qui est mise en œuvre depuis déjà tellement longtemps et on voit quel résultat que je ne comprends pas qu'on puisse encore croire en ce type de réponse pour notre pays. En ce qui concerne plus particulièrement le front de gauche, donc vous disiez qu'on a divorcé avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pas exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une conférence nationale où les membres de cette commission, c'est-à-dire à la fois les cadres du parti mais aussi des représentants de chaque département, ont voté. Et ont voté effectivement pour une candidature communiste. et pas pour le soutien à Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, c'était quand même le soutien à Mélenchon, c'était autour de 46%, il me semble.
Et vous avez voté pourquoi, vous ?
Alors moi, je n'étais pas délégué à la conférence nationale, donc je n'ai pas encore voté. Alors, donc ensuite, la décision revient aux adhérents. Donc à la fin de la semaine, là, c'est-à-dire le 24, 25 et 26 novembre, tous les adhérents communistes vont voter, soit pour un soutien à Jean-Luc Mélenchon, soit pour une candidature communiste, avec l'hypothèse aussi que dans le cadre de la candidature communiste, on pourrait la retirer si une candidature commune faisait jour. Parce qu'en fait, la position du Parti communiste français depuis le début par rapport au présidentiel, c'est d'œuvrer pour une candidature commune à gauche, réellement à gauche, pas François Hollande ou Manuel Valls ou M. Macron. Et je pense que face justement à cette montée des idées de droite dont je parlais avec M. Fillon et d'extrême droite, il est important qu'il y ait une candidature unique. Je pense qu'entre les Verts, entre les frondeurs du Parti Socialiste, entre le Parti de Gauche, etc., et bien d'autres partis, il peut y avoir une plateforme commune pour avoir un candidat commun et faire barrage à la droite et à l'extrême droite. Parce qu'effectivement, là, on se retrouve face à une présidentielle où si on se dit que si au deuxième tour, on a le choix entre M. Fillon et Mme Le Pen, c'est quand même pas très enthousiasmant.
Mais moi, je voudrais être rassuré que si jamais vous avez le choix entre Le Pen et le Parti Socialiste, le candidat Parti Socialiste, vous voterez Parti Socialiste. C'est pas sûr.
Non, mais là, on n'en est pas là. On est à la construction d'une candidature aux élections présidentielles. Donc, on n'en est pas encore au deuxième tour. Mais c'est la montée des idées de droite et d'extrême droite, c'est une réalité. Et je pense qu'il faut vraiment la prendre en compte.
Mais personnellement, vous avez envie d'une union possible?
Ah, mais moi, je milite depuis le début pour ces présidentielles à une candidature commune. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être effectivement cette candidature commune avec un travail à ses côtés, sur le programme et sur la construction de la campagne. La difficulté quand un candidat s'auto-proclame candidat pour un petit peu pour tout le monde, au-dessus des partis, etc., c'est qu'il n'y a pas de dynamique à côté. Alors qu'en 2012, on a vécu une vraie dynamique, c'est-à-dire qu'on a écrit le programme du Front de Gauche ensemble, on a construit la campagne ensemble, on a milité pendant toute la campagne ensemble. Je pense qu'il faut une vraie dynamique pour pouvoir avoir un candidat du Front de Gauche, ou plus largement même que le Front de Gauche, une vraie candidature gauche et écologiste au deuxième tour des élections présidentielles et battre la droite.
Y compris le PS.
Mais dans le PS, il y a des gens, je pense, qui peuvent partager une plateforme avec d'autres membres de la gauche, que ce soit le PC, le PG, les Verts.
Et la preuve, vous êtes en train de partager une même table avec M. Borne.
Voilà, et que hier, on était en réunion, comme vous le disiez, sur l'eau, et où on était encore plus large.
Alors, et vous, André Borne, côté du Parti Socialiste, ça a l'air compliqué en ce moment.
Le Parti Socialiste est à la fois, je dirais, simple et à la fois compliqué. Moi, je m'exprime plutôt d'une position d'un simple militant. Moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. J'ai un métier, j'ai un travail. J'ai une responsabilité donc politique locale. Mais bon, je ne suis pas dans les strates de l'appareil politique. Néanmoins, avec l'élection probable de François Fillon, on voit bien que la politique qui sera menée va vraiment nous faire reculer, avoir une régression sociale.
Quand vous dites élection probable, ça veut dire que vous actez directement le fait que la gauche peut avoir perdu les...
Non, probable de Fillon dimanche soir.
Ah d'accord, l'élection à la candidature.
À la candidature. Du coup, on va vraiment avoir vraiment quelqu'un qui est là, qui va défendre droit dans ses bottes une politique de droite, très à droite. Donc ce qui va donner plus de responsabilité encore plus à l'opposition. Alors c'est vrai que l'objectif de l'union est quelque chose de très important, surtout pour le premier tour, puisque si on veut être au deuxième tour, si on est éparpillé au premier tour, on aura moins de chances et peu de chances probablement d'être au deuxième tour. Même si il est dit de partout que Marine Le Pen serait à coup sûr au deuxième tour. J'en doute, je commence à en douter un peu, parce que c'est vrai que le discours politique de François Fillon, à mon avis, va mordre aussi un peu sur une partie de cet électorat Front National, qui était un petit peu aussi tenté par une certaine radicalisation, une certaine, je dirais, partie un peu franchouillarde, les Français d'abord et les autres après. Pour le Parti Socialiste, la fin de la récré va bientôt arriver. C'est-à-dire que le positionnement de François Hollande, candidat ou pas candidat, va être déterminant. Si François Hollande décide de ne pas repartir, les primaires sont programmées le 22 et le 29 janvier, et dans ces primaires donc de gauche qui seront pas forcément qui on dit des primaires la Belle Alliance, hein, c'est-à-dire que du coup ça peut être des primaires ou éventuellement des candidats. On a entendu peut-être que le candidat M. Jagot Europe Écologie Les Verts a dit peut-être qu'il serait peut-être candidat à la primaire organisée par le Parti Socialiste, peut-être que les communistes ou peut-être aussi, je sais pas, pour que du coup éventuellement il y ait quelque chose qui soit défini et qui soit acté pour que du coup le candidat qui sortira de cette primaire portera un projet.
Mais
et cette union.
Et vous-même, pour que nos auditeurs vous connaissent quand même un petit peu mieux, vous vous retrouvez plutôt dans le style de Valls, plutôt dans un libéralisme à la Macron, plutôt dans un souverainisme à la Montebourg, ou est-ce que...
Moi, c'est vrai que personnellement, celui qui a le plus de majorité, celui qui a le plus de... C'est en fait l'équipe sortante. Hein, c'est-à-dire, on va dire, Hollande-Valls, hein, si je voulais caricaturiser ma position. Mais au niveau du Parti Socialiste, on a à la fois cette force de cette diversité et à la fois, au bout du compte, cette force d'essayer d'avoir une union pour qu'on puisse avoir une politique objective et qui sert en fait les gens les plus en difficulté. Je pense qu'il faut qu'on arrive à essayer de trouver à gauche... un candidat qui puisse rassembler l'ensemble de toutes ses forces, de toutes ses pensées, pour le bien quand même d'un intérêt collectif.
Et Madame Pénavert.
Oui, moi je voulais quand même apporter une précision par rapport à ce que vient de dire André Borne, c'est que la candidature de gauche à laquelle j'aspire, c'est une candidature réellement de gauche. Et dans ce cas-là, je ne pense pas, absolument pas actuellement que le Parti Socialiste et que le gouvernement a fait une politique de gauche. Et c'est bien la responsabilité là, du gouvernement. C'est-à-dire que si les gens sont désespérés et se disent « bon, pourquoi pas Le Pen, etc. », c'est parce que le gouvernement et le Parti Socialiste a encouragé l'idée que de toute façon, on vote à droite ou on vote à gauche, c'est la même chose. Donc la politique de Hollande et Valls, ce n'était pas une politique de gauche. Les partis communistes ne participeront pas à la primaire du Parti Socialiste. Et la candidature à gauche, c'est une candidature réellement à gauche. Effectivement, il y a certainement dans le Parti Socialiste des gens qui sont déçus de la politique du PS et qui sont prêts à faire un bout de chemin avec des gens qui veulent une réelle politique à gauche. Mais je ne parlais pas de la structure PS.
Voilà. Mais en tout cas, on remarque qu'en local, on arrive toujours à trouver des intelligences en fait collectives et que les idéologies se marquent beaucoup plus quand on parle au niveau plus général, au niveau plus global, national. Et alors, on va revenir entre deux, parce que finalement, il va y avoir des élections locales, mais qui sont sur de la représentation au national, à l'Assemblée nationale. Ce sont les élections législatives dont on parle peu, mais elles viendront juste après les présidentielles en 2017. Et Monsieur André Borne, vous avez la particularité d'être d'ores et déjà déclaré, enfin auto-déclaré candidat, en attente d'une confirmation par votre parti qui avait plutôt envie de réserver la sixième circonscription sur laquelle vous voulez vous présenter face à Monsieur certainement Moine-Bressan. Mais voilà, peut-être la situation est-elle en train de changer et peut-être votre investiture va-t-elle
bientôt arriver. Alors je ne suis pas auto-proclamé, hein, je suis dans un processus de déclinisation. Donc du coup, les candidatures ont été déposées donc du 14 au 18 novembre. Donc c'est aujourd'hui, c'est cette semaine que du coup les candidatures vont être arrêtées. D'après mes informations au niveau national, parce que c'est quand même nationalement que ça, où ça se passe, aucune candidature femme n'a été déposée. Donc du coup les candidatures hommes vont donc être prises en considération. Il y a un autre candidat. Donc on est deux candidats et il y aura donc une élection des militants de la 6e circonscription qui représente à peu près 80 à 100 personnes qui éliront un de nous deux le 8 décembre puisque l'élection des investitures donc pour législatives se font dans les 577 circonscriptions le 8 décembre de 17h à 22h.
Voilà, ce ne sera pas que la fête des Lumières. Et donc vous espérez bien être choisi pour la candidature ce jour-là. Et voilà, en quelques mots, l'émission est bientôt terminée. Est-ce que vous avez envie de nous dire pourquoi? Parce que ça fait quand même assez longtemps que vous préparez le terrain un petit peu partout. Vous faites des réunions publiques dans cet objectif.
Dans la sixième circonscription, quand même, c'est quelque... Alors, il faut dire aussi qu'on est dans un schéma quand même un peu UBS, puisque Bourgoin et Jallieu sont séparés. Hein, comme donc on va faire les 50 ans de Bourgoin et Jallieu donc unifiés, là le 1er janvier 2017. Mais d'un point de vue au niveau des législatives, c'est toujours séparé. C'est-à-dire que du coup, il n'y a que la partie de Jallieu qui comprend aussi donc Jallieu, Prébéni, Montbernier, Champfleury sur la partie de Bourgoin-Jallieu qui prend un peu Ruy et d'un côté Saint-Marcel, Fontenay, puis après ça remonte jusqu'à Pontchéry, Crémieux, jusqu'à Les Avenirs, puis jusqu'à Villette-Danton. Donc vous voyez, c'est une circonscription, voilà. C'est une circonscription quand même qui est avant tout rurale. la partie Bourgoin-Jallieu représente 15 000 habitants, mais il y a à peu près 80 000 habitants dans ces autres secteurs, donc avec des pôles périurbains ou urbains qui sont le petit pôle Morastel, le Morastel des Amières, Pontcherry, Tignes-Jamézieux, puis Crémieux. Mais grosso modo, c'est quand même un secteur rural où il y a quand même beaucoup de difficultés de mobilité pour venir dans la ville-centre, hein, qui est quand même Bourgoin-Jallieu avec son Médipôle. Donc voilà, où sur la partie, on va dire, nord-est, des habitants basculent des fois sur le Lyonnais. Donc sur cette circonscription, moi, ce qui m'a motivé, c'est de ne plus accepter que M. Moine-Bressan puisse faire un huitième mandat et espérer donc que dans cette législature de 2017, il ne soit pas réélu, pour que du coup il y ait aussi d'alternance, parce que l'alternance il y a besoin aussi, il y en a besoin aussi sur les circonscriptions, et donc du coup ça fera aussi un petit changement par rapport à ce secteur-là. Ouais. Mais malgré tout, quand même, le député, un député, c'est quand même pas une assistante sociale hors classe. Hein, c'est pas le monsieur qui coupe les rubans tous les samedis, les dimanches. Un député, il est lié quand même à une mandature avec un président de la République et un gouvernement et avec un travail sur 5 ans de mandat porté par des élections présidentielles. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore l'inconnu pour moi.
Très bien. Ben, en tout cas, c'est clair. Donc, vous souhaitez être candidat dans la 6e circonscription. Alors, vous aviez été face à Vincent Chriqui au communal, mais Vincent Chriqui, lui, sera sur la 10e circonscription, où j'imagine on retrouvera Joël Huillier pour le Parti Socialiste. Et alors, du coup, Madame Pénavert, je me tourne vers vous au niveau du PC. Comment ça va se passer pour les législatives ?
Alors, au-delà des candidats, parce que nous, on n'est pas encore sur le mode de désignation, enfin, on n'a pas suffisamment avancé là-dessus, je pense que vraiment les élections législatives sont des élections importantes. Parce qu'on parle beaucoup des présidentielles, et c'est vrai qu'on va être focalisé là pendant des mois et des mois au niveau médiatique, etc., sur les présidentielles. Mais les législatives, c'est vraiment des gens qui représentent le peuple et qui vont voter les lois.
Et qui vont permettre ou non au président de la République d'exercer une politique.
Exactement. Et donc, le Parti communiste travaillera à présenter des candidats le plus possible dans les circonscriptions, et surtout à avoir un groupe communiste à l'Assemblée ou plus large, Front de Gauche. Et on voit bien avec justement la loi travail l'importance. S'il y avait eu effectivement une majorité d'élus communistes, la loi travail ne serait pas passée. Donc c'est quand même ça a des conséquences sur le quotidien des gens.
Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie tous les deux, Frédéric Pénavert, André Borne, d'être venus nous Merci voir beaucoup. Aujourd'hui à Couleur FM. Nous vous souhaitons une bonne continuation à Bourgoin-Jallieu, à la CAPI, dans les circonscriptions qui vous concerneront. Merci encore.
Merci à vous.
Voilà, c'est terminé. Il faut refermer la porte de cet espace public derrière nous. Nous la rouvrirons dans 15 jours. Je vous invite à ne pas rater ce rendez-vous. Nous continuerons notre découverte du paysage politique du Nord-Isère avec une rencontre exceptionnelle avec Jean-Pierre Barbier, le président du conseil départemental, qui viendra lui aussi nous parler pendant une heure de sa politique au niveau du département. Le temps aussi de remercier William à la technique qui nous a rejoint à Couleur FM et qui assure terriblement. Le temps de vous dire aussi que nous avons écouté Jane avec Hob et Bruce Springsteen avec Factory. Vous dire aussi que pour continuer la découverte de nos paysages du Nord-Isère, nos paysages politiques, citoyens, économiques, un autre rendez-vous à ne pas rater qui va revenir régulièrement sur nos ondes désormais en alternance avec Espace Public. Cela s'appelle Sur les chemins du Nord-Isère, c'est animé par Michel Guillet. Il part à la découverte de nos villages, de nos communes. Il rencontre les acteurs politique, économique, citoyen, démocratique. Et la première émission de décembre, ce sera sur Niveau la Vermelle. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère qu'il aura été instructif. Portez-vous bien. À la prochaine fois.